Prosternons-nous. Quel désir de mon cœur. Pendant l'été, on a eu différents messages sur l'Évangile de Jean. Et l'objectif que j'avais, c'est de trouver dans l'Évangile diverses rencontres avec Jésus. Et le fait de rencontrer Jésus, je crois que ça nous a aidé à déterminer les fondements pour notre vie. Et aussi à nous transformer progressivement à sa ressemblance. Et c'est le dernier message ce matin sur la notion de rencontrer Jésus. Parce qu'il y a une autre question qui relève. On va voir ce matin Jean chapitre 14, dans le dernier message de Jésus avant qu'il quitte la terre, le dernier message de ses disciples avant la crucifixion plutôt. Et une question qui va revenir puis qui revient encore aujourd'hui. Qui nous dit pourtant que celui en qui nous avons placé notre foi est vraiment digne de foi? Qui nous dit que le fait que nous avons placé notre confiance en Dieu, nous l'avons rencontré, nous nous sommes prosternés devant lui, nous l'avons adoré, nous l'avons reçu comme sauveur, qui nous dit que c'est vrai cette affaire-là? Que c'est digne de foi. Dans nos grandes questions existentielles, là, d'où je viens, qu'est-ce que je fais sur la terre, qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, qui dit que ce que je crois est bel et bien vrai? Est-ce que ce serait possible que nous soyons sincèrement dans l'erreur? Est-ce que ce serait possible que, en réalité, on s'est fait tromper puis qu'on manque le vrai sens de la vie? Cette semaine, ma sœur m'a appelé puis il y avait un reportage à la télévision en quelque part sur le chapiteau du réveil à Lévis, puis là mon neveu était là-dedans. C'était le fun de le voir. Puis il a posé des questions. Les médias, on peut pas compter qui dit « Hey, c'est formidable, il croit en Jésus, c'est au bout. » Puis il essayait de planter Pierre-Alexandre en disant « Tu sais, toi et ton, tu veux être à mode dans un sens, tu fais du hip-hop. Puis tu trouves pas que t'es loser pas mal finalement. Il n'y a pas grand monde qui court après toi. » Et que ça doit frapper pour un jeune de 20 ans, là. T'es-tu sûr que t'es du bon bord, là? Tu sais, y a pas grand monde qui court après toi, là. Il dit à la petite mademoiselle, à Catherine Grenier, qui est venue faire un spectacle ici, là. Une belle voix comme toi, là. Tu devrais chanter dans le monde. Ça serait payant. Il y aurait du monde. Pourquoi tu choisis cette petite affaire-là? Pierre-Alexandre répond, « Hey, je suis du côté du vainqueur. » Amen. Ils ont coupé la caméra rapide, là, mais c'est pas laissé planter. Non, je suis du côté du vainqueur. Et là, dans ma tête, il y avait des versets pour Pierre-Alexandre. Moi, j'étais dans mon salon. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme? Je suis du bon bord. J'ai donné mon âme à Jésus. Je suis côté de la vérité. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Après avoir rencontré Jésus sous différents aspects, j'aimerais qu'on le rencontre aujourd'hui dans son dernier discours, dans lequel il a fait une affirmation sur lui-même qui le distingue de tous les grands leaders, de tous les grands penseurs, de tous les siècles. Jésus a dit, « Je suis la vérité. » Il n'a pas dit, « Je connais la vérité. » Il n'a pas dit, « Je vais vous montrer ce que c'est la vérité pour moi. » Il n'a pas dit, « Suivez-moi vers la vérité. » Il n'a pas dit, « J'ai la vérité » ou « J'ai une vérité. » Mais il a dit, « Je suis la vérité. » Et une déclaration qui est tout à fait définitive et tout à fait exclusive, la vérité, c'est Jésus. Un peu plus tard, après cette soirée-là, Jésus va rencontrer Pilate, le gouverneur romain. Et Jésus va dire à Pilate, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate, alors, il a posé la question à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité? » Mais la Bible dit qu'il n'a pas eu le courage d'attendre ni d'entendre la réponse de Jésus. Ce matin, j'aimerais répondre à cette question-là de Pilate. C'est quoi la vérité? Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse découvrir l'appel de la vérité dans nos vies. Et je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. On va lire une toute petite portion de ce texte, dans Jean chapitre 14, de cette dernière rencontre dans la chambre haute, où Jésus affirme être la vérité. Jean chapitre 14, vous avez trouvé? D'abord, Seigneur, on ouvre ton livre. Ta parole est vérité. La parole s'est faite chair. Et Seigneur, nous avons le record maintenant de tes paroles. On veut te prier qu'elles puissent encore agir avec puissance dans nos vies. Toi-même qui as prié dans le jardin de Gethsémané avant de quitter, en disant « Je leur ai donné ta parole. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Alors Seigneur, dirige-nous dans ta parole ce matin, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour sa gloire et pour notre édification. Amen. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus dit d'abord que la vérité, c'est une personne. Il dit, « Je suis la vérité. » Voyez-vous, présentement, il est dans son dernier discours avec ses disciples avant d'être crucifié. Son moment de départ approche et il annonce à ses disciples qu'il va partir et que là où il va partir, les disciples ne pourront pas le suivre. Malgré leurs recherches, il va aller et il dit, vous ne pourrez pas m'accompagner. 13:33, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je m'en vais, puis vous ne pourrez pas me suivre. Et à ce moment-là, après 3 ans de ministère, Jésus est en train de dire qu'il va les laisser en arrière, qu'il va s'en aller, qu'il va partir tout seul, puis qu'il va les laisser tout seul. Il va-tu les lâcher à la dernière minute, là? La soupe est-tu trop chaude pour Jésus? Fait que là, en catimini, il leur dit le dernier soir, tu sais, vous m'en partez, vous m'en... courez pas après moi, je ne serai plus là. Mais il leur dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Un moment crucial où Jésus va appeler ses disciples à croire en lui, à croire à ses paroles. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, puis si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je désire que vous placiez votre pleine confiance en moi, même si je pars. Parce que mon plan, c'est de préparer l'au-delà avant de revenir vous chercher. Avant de revenir chercher ceux qui ont placé leur confiance en lui pour l'éternité, passer l'éternité avec lui. Et cette déclaration-là, je m'en vais puis je vais revenir, demande une confiance totale des disciples. Et on aime bien Thomas, il nous ressemble, hein? M'en va vers le Père, ça avait chemin. Thomas dit, wow, 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 là, je ne suis pas sûr de tout ça. Moi, là, il y a des doutes, lui aussi. Et Jésus, pour confronter ses doutes, dit simplement, je suis la vérité. Je suis entièrement digne de toute ta confiance. Et à ce moment-là, Thomas a été placé devant la même décision que nous. Jésus, il est soit un lunatique qui ne sait pas ce qu'il dit, il est soit un menteur qui va les tromper puis qui va sauver à cachette, ou soit qu'il dit véritablement ce qu'il prétend être, soit qu'il est véritablement ce qu'il dit être. Alors, c'est une question de la vérité, c'est une personne. La vérité, elle doit être basée sur la crédibilité de cette personne. Jésus est-il crédible quand il dit « Je suis la vérité » ? Et quand je regarde la vie de Jésus dans la Bible ou dans l'histoire, je vois que Jésus a laissé aucune évidence d'être une personne qui était déséquilibrée mentalement, qui était un lunatique. Il a laissé aucune évidence de ça. Il communiquait librement avec tous ceux qui le rencontraient. Il pouvait parler avec des pauvres, il pouvait parler avec des riches, ça ne faisait pas de différence. Il pouvait parler à des marginaux, il pouvait parler à des bourgeois, ça ne faisait pas de différence. Il pouvait parler à des pêcheurs, il pouvait parler à des intellectuels, il pouvait se faire comprendre à tout le monde. Il n'y avait pas aucune impression d'être lunatique. Et Jésus affirmait constamment, on le trouve 25 fois dans l'Évangile de Jean, cette déclaration de Jésus, « en vérité, je vous le dis ». Il n'avait pas l'impression il donnait pas l'impression d'être un menteur. Mais il disait et répétait constamment, en vérité, je vous le dis. Et régulièrement, quand il faisait une telle affirmation, en vérité, je suis la lumière du monde, bien, il prenait un aveugle puis lui donnait la vue. Ça l'aidait pour la crédibilité, ça. Il appuyait ses dires par des démonstrations miraculeuses, par des actes miraculeux. Au tout début de son ministère, quand il est entré dans le temple, puis qu'il a commencé à brasser la baraque un petit peu, les gens lui ont demandé, « Hey, quelle crédibilité que tu as, toi, pour nous brasser de même, là, pour virer les tables des changeurs, puis sortir le monde. » Il dit, « Quel miracle fais-tu pour prouver ta crédibilité? » Tu sais ce que Jésus a dit? « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Il parlait qu'il allait être mis à mort et que 3 jours plus tard, il allait ressusciter. Dès le début de son ministère, la vie de Jésus manifeste sa crédibilité. Jésus pouvait dire aux gens, « Qui me convaincra de péché? S'il y a quelque chose que j'ai mal fait, montrez-le-moi. Pour quel miracle voulez-vous m'accuser? » Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, c'était bien la vie de Jésus manifeste toute sa crédibilité. Il n'a jamais été attrapé à faire le mal. Sa mort a été prophétisée, lui-même l'a dit. Et davantage, sa résurrection sont la preuve de la véracité de ses paroles. La résurrection, en réalité, était la preuve la plus éclatante de la véracité de ses paroles. Tellement que Paul va dire plus tard, si Jésus n'est pas ressuscité, là, on est juste une gang de menteurs, nous autres aussi. Notre foi est vaine, et puis il s'avère qu'on est des faux prophètes, qu'on ne dit pas la vérité. Mais si Christ est ressuscité, le message de Christ est vrai. Mes péchés peuvent être pardonnés. Si Jésus dit qu'il est la vérité et que sa déclaration, elle est crédible, alors il y a des conséquences formidables des affirmations de Jésus. Si Jésus, ou plutôt, puisque Jésus est bel et bien la vérité selon ses affirmations, ben, je dois dire qu'il y a bel et bien dans l'au-delà un ciel et un enfer. Si Jésus est la vérité, si je crois que Jésus est la vérité, ben, ça va avoir des conséquences formidables, importantes. Jésus va préparer une place à ceux qui croient en lui. Puis ceux qui ne croient pas en lui, il y en a un autre endroit, puis c'est l'enfer. On n'aime pas le dire. Jésus a dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est-tu vrai, ça? Sais-tu, il a mis de la gomme en masse pour faire peur au monde, là, pour que le monde sorte. Ou est-ce que c'est vrai qu'il y a un ciel puis un enfer? Jésus l'a affirmé. Si c'est vrai, ou puisque c'est vrai que Jésus est la vérité, bien, il y a un autre élément aussi. Chaque personne est soit un enfant de Dieu, soit un enfant du diable. J'aimerais que vous tourniez dans Jean chapitre 8, des affirmations de Jésus. C'est assez drastique, ça. Si Jésus est vérité, chaque personne sur la terre est soit un enfant de Dieu, soit un enfant du diable. Jean chapitre 8, verset 38. Jésus il disait aux Juifs qui étaient là, entre autres les chefs religieux qui étaient là, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Alors, Jésus fait une différence entre son Père et leur Père. Vous voyez bien ça? Regardez au verset 41. « Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui disent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Pique un petit peu Jésus, là. C'est qui ton père, toi? C'est-tu un petit Samaritain qui a rencontré Marie en quelque part, puis que là, finalement, oh là là, naissance miraculeuse, exceptionnelle, on piquait Jésus de cette matière-là. C'est ce qu'il dit, là. Hein? Nous, là, on n'est pas des enfants légitimes. Toi, on a juste un père, puis c'est Dieu. Jésus leur répondit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voyez-vous, les chefs religieux, malgré toute leur apparence de piété, Jésus qui est la vérité, affirme qu'ils avaient le diable pour père. La Bible, elle dit que par nature, nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas automatiquement des enfants de Dieu. Personne ne naît dans ce monde un enfant de Dieu. On le devient quand on reçoit une autre nature, la nature divine en nous. Mais par nature, Paul va dire aussi, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, pas des enfants de Dieu comme les autres. Voyez-vous, quand je partage ma foi avec plusieurs personnes, souvent, on peut rire, puis on peut avoir des terrains d'entente. Mais quand ça arrive, puis on me dit, tu sais, on est tous des enfants de Dieu, puis que je dis, non, Alfred, on n'est pas tous des enfants de Dieu. On peut devenir un enfant de Dieu, mais par nature, on est tous des enfants de colère. Là, habituellement, ça coupe traite. Où il y a un éveil, où là, oh, ça se pourrait-tu que j'ai manqué quelque chose? Que je pense être comme ça, un enfant de Dieu, alors que je ne le suis pas. Pour moi, ça a été une chose très nette à un moment donné qui a balancé dans mon cœur quand j'ai lu Jean chapitre 1, verset 12. Vous connaissez ce verset-là? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ah, il y a eu une naissance, une nouvelle naissance. On devient enfant de Dieu par conversion, par nouvelle naissance, par la foi en Jésus, qui lui est le chemin, la vérité et la vie, et à travers lequel personne ne peut aller au Père, sinon exactement par Jésus. parce que Jésus est vérité, il faut placer toute notre confiance en lui pour le salut. Il nous faut croire la vérité. Dites-moi ce matin, croyez-vous que Jésus est vérité? Et si vous répondez oui, est-ce que vous avez placé votre vie entre ses mains dans sa rédemption pour votre salut? Il faut, Jésus dit, que vous naissiez de nouveau. Parce que Jésus a dit vrai. Il n'y a pas d'autre issue. Nul ne vient au Père que par lui. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est aussi un apprentissage. Le but de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de communier avec sa créature. Et en même temps, c'est de lui communiquer sa nature et son caractère. Le but de Dieu pour nous, c'est d'être entré en communion avec lui. Et pour ça, il commence d'abord par nous communiquer son caractère, sa nature à lui. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Il faut recevoir Dieu dans nos vies, il faut recevoir Jésus. Il nous communique sa nature et par la suite, il veut nous communiquer son caractère. L'homme est appelé à devenir progressivement l'empreinte de Dieu sur la terre. Il est appelé, il est un enfant de Dieu qui est appelé à refléter son Père. Et comment il va refléter son Père? Bien, la vérité est l'instrument d'apprentissage de notre devenir. La vérité, c'est le moule sur lequel le divin potier nous forme. Si la vérité, c'est un apprentissage, il nous faut donc la chercher. Il nous faut donc la poursuivre. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais aussi la compagnie de la vérité, psaume 19 va dire, ça restaure l'âme. Ça rend sage l'ignorant, ça l'éclaire les yeux, ça réjouit le cœur. Regardez encore Jean chapitre 8, on était là. Regardez les versets 31 et 32. La vérité forme les disciples. La vérité les libère, les affranchit du péché et du mal pour les transformer à l'image de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 31, « Et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Non seulement vous allez connaître Jésus qui est la vérité, mais si vous demeurez dans la parole de Jésus, vous allez découvrir de plus en plus la vérité. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jésus est vérité. Il donne liberté. Et par sa parole, il transforme les croyants vers la vérité, à sa ressemblance. La vérité forme les disciples. Elle les libère. Mais pour ça, j'ai besoin de la rechercher. Tournez avec moi dans le Proverbe, dans les Proverbes, le chapitre 2. Proverbes, chapitre 2. En plein milieu de votre Bible, vous allez tomber dans les psaumes. Vous allez tourner à droite. Vous allez aller vers la droite. Vous allez continuer, vous allez trouver Proverbes. Proverbes chapitre 2. C'est un père qui parle à son fils. C'est Salomon qui parle à son fils. Et qui voudrait lui donner les principes les plus importants avant qu'il le quitte. Proverbes 2, verset 1. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, ou si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Est-ce que la vérité entre dans notre cœur de façon automatique? Il va répéter « si, si, si ». si tu recherches, si tu poursuis la vérité, si tu la recherches comme un trésor, si tu la cherches comme l'argent, si tu élèves ta voix vers l'intelligence pour dire « je veux te connaître », oui, tu vas la connaître. La vérité, c'est un apprentissage. La vérité vient à ceux qui la recherchent passionnément. Pilate, il a posé la question, c'est quoi la vérité? Mais il n'a pas désiré la connaître. Il n'a pas connu la vérité. Et voyez-vous, notre monde a plein de propagateurs de mensonges. La philosophie de vie véhiculée dans notre monde occidental est centrée sur le matérialisme et sur l'humanisme. On dit dans notre monde que l'homme est heureux et accompli quand il est capable de décider par lui-même de ses valeurs et de son destin. Et on dit dans notre monde matérialiste que l'homme est heureux et accompli quand il possède la plus grande épaisseur de biens consommables offerts. Là, il est heureux. Il est heureux s'il est capable de diriger lui-même sa vie, puis s'il en a épais des biens de ce monde. Est-ce que ça, c'est la philosophie qu'on enseigne dans les Écritures? Non. Mais notre monde est plein de ces propagateurs de mensonges. Voyez-vous, depuis un siècle, le domaine de niveau de vie matériel a progressé de façon formidable, alors que le niveau de vie morale, relationnelle, spirituel a grandement régressé. Notre monde a avalé une philosophie du monde qui était matérialiste et humaniste. Et par conséquent, il y a des niveaux qui ont augmenté dans son confort. Mais il y a d'autres niveaux qui ont pris du nez profondément. Son niveau de vie morale. Ses relations interpersonnelles. Sa relation avec Dieu. Et la télévision et les médias sont devenus les porteurs privilégiés de mensonges. Le but de la télévision, c'est de vous communiquer les valeurs humanistes, puis de vendre des produits puis des services. Et nos gens passent 20 heures par semaine à poursuivre la télévision puis les médias, puis 20 minutes par semaine dans les Écritures. Puis on dit, tu sais, j'ai de la misère à vivre ma vie chrétienne. Bien évidemment, je suis en train de mordre dans ces propagateurs de mensonges. Puis je suis vide. La vérité, c'est un apprentissage. J'ai besoin de m'attacher aux propagateurs de vérité plutôt qu'aux propagateurs de mensonges. Même notre système d'éducation a été gagné par la philosophie de ce monde. Je pense encore à ce nouveau cours d'éthique et de culture religieuse où un des objectifs, on est obligé de changer, en tout cas, on est obligé de changer la loi pour que les professeurs maintenant, il n'y ait plus d'objection de conscience pour enseigner ça. Les professeurs maintenant sont obligés de suivre, sont dirigés par le gouvernement, ils doivent enseigner les enseignements moraux, éthiques. Éthique, ça veut dire le choix du bien et du mal. Alors là, c'est eux autres qui doivent enseigner ça selon le cours que l'on donne. Et dans les objectifs du cours obligatoire, c'est de s'assurer qu'on ne croit pas à rien en particulier, qu'on doit toujours remettre en question. À 7 ans, on doit remettre en question les valeurs qu'on a déjà apprises là. Puis on leur présente toutes des options, puis on a dit, t'es-tu vraiment sûr que c'est cette option-là que tu as? Puis dans les options, bien, Jésus n'est même pas Dieu là-dedans. Même notre système d'éducation a été gagné par l'humanisme, et on doit faire attention. Mais si on passe 20 heures devant TV, puis 20 minutes dans les Écritures par semaine, bien, on n'aura pas d'outils pour propager la vérité. La vérité, c'est un apprentissage. Il nous faut s'attacher aux propagateurs de vérité. Quel est le principal propagateur de vérité? La parole de Dieu. C'est là-dedans que je trouve la vérité, puis que je peux m'en nourrir. Jésus, dans sa dernière prière à Gethsémané, Jean chapitre 17, quand il prie son Père, quand il demande à son Père de les préserver du mal, il les a placés dans le monde, puis il dit, j'en ai pris soin maintenant, mais Seigneur, toi maintenant, prends-en soin. Et il dit quelque chose de très important, de comment il en a pris soin. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole. Ça, c'est ce que Jésus a fait à ses disciples. Il leur a donné ta parole, sa parole, la parole de Dieu. Et le verset 17, il va dire alors, il va demander au Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Consacre-les à ton service. Ça, c'est sanctifié. Mets-les à part pour l'usage particulier de Dieu. Comment? Par ta parole. C'est la parole qui va apporter le renouvellement de l'intelligence, qui va me faire découvrir de plus en plus la vérité. La Bible dit que les parents chrétiens sont aussi des propagateurs de vérité. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant dans la voie. Place sur sa langue les bons choix, les bons goûts. Conduis-le, donne-lui le goût très tôt de suivre Dieu. Ça veut dire, passe du temps avec ton jeune, avec tes enfants, à présenter Jésus à leur niveau. C'est formidable, le culte des enfants. On aura le culte de l'Arche à partir des soirs dans quelques semaines. Mais ça, ça ne remplace pas la responsabilité des parents de, dès leur bas âge, de placer sur leur langue des bonnes choses. Voyez-vous, on stérilise tout dans la maison. Les assiettes, les verres, les couteaux, la bassinette, tout. Je commence à découvrir ça, moi aussi. On stérilise tout. Puis après ça, on va planter notre enfant de 4 ans devant la TV 6 heures par jour. Puis on va dire, je ne sais pas pourquoi mon enfant, il a tout des goûts bizarres. Qui c'est qui a montré ça? Non, les parents sont les propagateurs de vérité, mais ils ont besoin de placer sur la langue des enfants la bonne chose. Instruis-les dans la voie. Donne-leur le goût de Dieu. Et la communauté chrétienne est aussi un propagateur de vérité. C'est la communauté chrétienne qui va aider à répondre aux besoins de communion, d'encouragement, d'exhortation, d'édification. Je vous parle de groupes de dames ce matin, de groupes d'hommes, de s'examiner soi-même parce que c'est crucial pour la vie du croyant. De renouveler son intelligence par des principes bibliques, d'être encouragé les uns les autres à marcher dans la foi, de ne pas s'isoler tout seul, puis de dire la vie chrétienne c'est donc difficile, puis je n'ai pas d'aide de personne. Oui, il y en a, mais ça prend l'effort. Ça prend l'effort mardi soir de choisir est-ce que de 7h à 10h je vais être assis dans le fauteuil ou de 7h à 10h je vais être à l'église avec d'autres frères en train d'être encouragés dans la foi. Vous allez avoir ce choix-là mardi. Vous allez décider. Et j'espère le mardi dans deux semaines suivantes. Parce que c'est des choix qu'on va prendre. La vérité, c'est un apprentissage. Et la communauté chrétienne est le meilleur milieu pour grandir dans la foi. Mais pour ça, on doit lutter contre l'isolement, contre la passivité. Parce que Jésus est vérité. Il nous faut le connaître. Lui, la parole de Dieu faite chair. Et finalement, la vérité, c'est une personne, c'est un apprentissage, mais c'est aussi un style de vie. Jésus a marché sur la terre pour nous montrer à vivre l'Évangile, à marcher dans la vérité. La vérité dans nos vies nous appelle à demeurer en Jésus. Jésus a fait tout un beau passage, Jean chapitre 15, le 7. Il est le sept, nous sommes les sarments, et il nous appelle à demeurer en lui, à demeurer dans sa parole, à demeurer dans son amour. Et Jésus, la vérité, il vient vivre dans le croyant par son esprit. Regardez Jean chapitre 14, verset 16. Encore une fois, c'est dans son dernier discours. Ses disciples avant la crucifixion. Il dit, je m'en vais, mais je m'en vais vous équiper. Je m'en vais vous envoyer l'Esprit de Dieu. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'Esprit de vérité qui est avec vous présentement, il va venir plus tard demeurer en vous. Ça, c'est la bénédiction de la nouvelle alliance. Une nouvelle puissance qui est en moi, l'Esprit de Dieu. Je pense en train de dire un titre de chapitre de Révolution intérieure. Cette nouvelle puissance qui est l'Esprit de Dieu en nous me rend capable de vivre maintenant la vérité, de demeurer dans la vérité, d'être fortifié, d'être imprégné de la vérité. L'Esprit de Dieu habite en nous. S'il me venait un petit comique dans ma tête quand j'écrivais ça cette semaine. Quand j'étais jeune, j'écoutais les Popeyes. Là, tu sais, Popeye, le vrai marin. Lui, il avait une puissance qui venait en lui, puis soudainement, tout devenait fort. Après ça, des épinards, là, mais j'ai jamais goûté, ça m'a jamais donné trop le goût d'en manger non plus. Mais l'Esprit de Dieu, ici, c'est un peu comme ça. Il vient habiter en nous et il nous donne la puissance d'être transformé pour refléter Jésus, pour libérer le chrétien de la puissance du péché et de libérer une nouvelle liberté dans le croyant pour plaire à Dieu. Jésus vit dans le croyant. Jésus, la vérité, vit dans le croyant par son esprit. Et le disciple alors se met à imiter et à suivre son maître. Le croyant ne doit pas s'arrêter à placer sa confiance dans la vérité, mais il doit demeurer et marcher dans la vérité. Tournez pour terminer dans 2 Jean. 2 Jean, il y a juste un chapitre, les versets 1 à 4. Dans le chapitre 1, si je peux dire, mais il n'y a pas de chapitre 2. 2 Jean, les 4 premiers versets, qui me dit que pour le croyant, vérité et amour deviennent les valeurs fondamentales de sa vie. Le croyant aime dans la vérité et il marche dans la vérité. 2 Jean, l'ancien à Kyriol l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Parce que Jésus est vérité. Il nous faut, à notre tour, marcher dans la vérité et être caractérisé par la vérité, par l'amour. Lorsque nous rencontrons Jésus, et j'espère que c'est votre privilège, c'est votre joie, c'est votre liberté, c'est votre épanouissement de dire, « Moi, j'ai rencontré Jésus. Jésus est vérité. Jésus est la vérité. Il est le fondement de la vérité pour moi. » Pour toi, est-ce qu'il est ce fondement de la vérité ou est-ce qu'il t'offre simplement une vérité parmi tant d'autres? Que ce matin, ce soit clair que ce que Jésus dit, c'est vrai et je lui passe ma confiance. Est-ce que tu as reçu ce Jésus, la vérité, comme réalité ultime de ta vie? Comme Seigneur, comme Sauveur? La Bible a dit « Grâce et vérité sont venues par Jésus ». Et pour ça, j'ai besoin de recevoir cette vérité-là, d'être transformé par elle. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme sauveur personnel? C'est tellement important. Il faut naître de nouveau, Jésus a dit. Est-ce que je nourris mon âme aussi de la vérité? Jésus a dit à Pilate, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Est-ce que tu écoutes régulièrement la voix du Seigneur? Jérémie pouvait dire, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur nous, Éternel des armées. Je les ai recueillies, tes paroles, puis je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Est-ce que c'est le cas pour toi? Nourris-tu ton âme de vérité? Et finalement, marches-tu dans la vérité, dans l'intégrité? Y a-t-il beaucoup d'incongruité entre ta profession de foi et ta marche de foi? Jésus a dit, je suis le sceptre, puis vous êtes les serments, puis si vous ne restez pas attachés à moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si tu demeures en moi, tu vas porter beaucoup de fruits. Rencontrer Jésus comme la vérité va faire toute la différence dans chacune de nos vies, dans la mienne comme dans la vôtre. Quelle joie, quel privilège de connaître Jésus, de le suivre parce qu'il est la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Vérité qui me donne stabilité dans ma vie aujourd'hui, qui va me donner félicité pour l'éternité. Prions Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci ce matin, je m'approche de toi comme étant ce rocher, ce fondement, comme étant la vérité. Seigneur, je veux te prier que par ton esprit, tu places dans le cœur de chaque personne qui est ici cette conviction que tu es la vérité, pas une vérité parmi tant d'autres. Cette vérité crédible sur laquelle nous pouvons placer toute notre confiance, cette vérité que nous pouvons continuellement apprendre et marcher dans la vérité. Oh Seigneur, béni sois-tu pour cette sécurité que tu me donnes, cette stabilité et cette assurance de l'éternité avec toi. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Tu as dit, Seigneur Jésus, je m'en vais vous préparer une place. Puis si ce n'était pas vrai, il nous l'aurait dit. Mais c'est vrai, Seigneur. Et en toi, je me confie. Donne cette grâce, Seigneur, à toutes ces personnes ce matin qui sont ici, de croire la vérité et d'y marcher. T'en prions au nom de Jésus. Amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour.
Excusez, M. l'abbé parlait d'instruire les enfants dans la vérité. J'avais mes deux garçons assis en avant de moi un soir, j'avais un livre là, avec une histoire de Jésus, là, puis l'image c'était Jésus qui montait au ciel. Je me tourne vers mon petit garçon, Elliot, il y a 2 ans et demi, il dit, « Toi, tu veux-tu aller au ciel avec Jésus? » Il dit « Non, je ne veux pas tomber. »